Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie vivement de nous avoir accordé un peu de votre temps. Avant de répondre à nos questions, pouvez-vous vous présenter?
Eh bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation sur votre radio. Donc, je suis Nathalie Auziol, députée de la deuxième circonscription de l'Hérault, qui est une circonscription sur Montpellier. Je suis élue depuis le mois de juin 2022.
Merci, Madame la députée. Je laisse la parole à Mathéo.
Bonjour. Le 8 mars, c'était la journée des droits de la femme. Que pensez-vous de cette journée?
Oui, bah merci pour cette question. Alors, c'était il y a 2 jours, hein, du coup, cette journée à la fois symbolique et importante. Moi, j'étais dans la manifestation, vous savez, c'est l'occasion pour les gens de défiler dans les rues de manière un peu festive, pour rappeler que le combat pour les droits des femmes, c'est un combat qui est toujours d'actualité. On a fait beaucoup de progrès sur la question parce qu'il y a eu une prise de conscience sur le fait que, il y avait beaucoup d'inégalités sociales, qu'il fallait travailler là-dessus. Alors, il y a des choses qui ont été faites, hein, par exemple assurer la parité au niveau politique. Et puis, bah, ce n'est pas fini. Il y a toujours de nombreuses femmes qui meurent sous les coups de leur mari, par exemple, de nombreuses femmes qui subissent des violences sexistes et sexuelles. Et donc, c'est une question qu'il faut encore prendre à bras le corps pour rendre les gens conscients que ça existe et pouvoir progresser dans ce niveau-là.
Que pensez-vous du mouvement féministe à l'heure actuelle?
Je pense que les mouvements féministes, de manière générale, aident notre société à se porter bien parce qu'elles nous font prendre conscience, ils nous font prendre conscience, ces mouvements, des sujets sur lesquels on s'est amélioré et des endroits où il faut encore s'améliorer. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, on a tous entendu parler du mouvement MeToo, qui était un mouvement surtout dans le milieu culturel qui est né aux États-Unis, par exemple, de femmes actrices qui révélaient le fait qu'elles avaient pu subir des violences sexistes, sexuelles, dans le cadre de leur métier, en fait, hein, dans le cadre de leur métier d'actrice. Et elles en ont eu marre de se taire, elles l'ont révélé au grand jour, elles ont parlé dans la presse, ça s'est répandu dans le monde entier, et petit à petit, dans chaque pays, il y a eu une prise de conscience, en France aussi. Et donc, eh bien, tout ce qui permet de libérer la parole des femmes est bon à prendre. Et donc, il faut continuer à travailler pour que les femmes soient libres de disposer d'elles-mêmes et de leur corps.
Selon vous, d'où peut venir les remarques sexistes des hommes?
Ah, c'est une vaste question. Et en fait, c'est ce qui permet de prendre le problème à la racine. Il y a plein de causes. Vous savez, on dit qu'on vit dans un système de tradition patriarcale, c'est-à-dire où les hommes vont être en situation de domination par rapport aux femmes. Et ça date pas d'hier, en fait, hein. On parle de milliers d'années qui ont été construites avec un système patriarcal. Donc ça demande du temps, hein, de revenir là-dessus, sur des habitudes, etc., sur la façon dont les familles ont l'habitude de fonctionner. Et ça peut être, par exemple, travailler sur l'éducation, de défaire des constructions, de défaire des habitudes. Tous les garçons ne portent pas du bleu, toutes les filles ne portent pas du rose, tous les garçons ne passent pas la tondeuse, et il y a des filles qui aiment faire le bricolage, et il y a même des garçons qui aiment faire la cuisine. Donc en fait, ça s'appelle déconstruire des clichés, par exemple. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire au niveau de l'éducation. Et puis ensuite, eh bien, les associations féministes demandent depuis longtemps d'avoir de l'argent pour pouvoir accueillir les femmes qui se disent victimes de violences. Les associations, elles demandent 1 milliard d'euros. Eh bien, il faut allouer cet argent-là aux associations qui disent qu'elles en ont besoin parce que lorsqu'une femme, par exemple, quitte le domicile parce qu'elle a été frappée par son mari, son frère, son père, etc., eh bien, il faut qu'elle puisse être accueillie quelque part. Et pour ça, il faut de l'argent, il faut des locaux, etc. Donc, tout ça, c'est beaucoup de travail encore à faire, mais on peut dire aussi qu'on a fait du chemin.
Attends,
merci.
Dans la société actuelle, il y a plusieurs inégalités. Si vous deviez nommer la plus grande inégalité, ça serait laquelle?
Alors, j'ai beaucoup parlé là des violences. Il y a un autre aspect, moi, qui me semble important et qui peut paraître tout bête, mais c'est le fait que les femmes se plaignent encore d'inégalités au niveau des salaires. C'est-à-dire que pour un même poste, un même travail, les femmes vont souvent, parfois, toucher moins d'argent que les hommes. Alors, pour quelles raisons? Eh bien, ça peut être des raisons liées au fait que quand on est femme, bah, on a des enfants. Des fois, on s'arrête de travailler ou on prend des temps partiels pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Et donc, ça pénalise au niveau du salaire qu'on touche après. Et ça se répercute. En ce moment, on a beaucoup de débats sur la réforme des retraites. Et on dit que souvent, les femmes sont les grandes perdantes de la réforme des retraites parce que comme elles se sont parfois arrêtées de travailler, alors, elles n'ont pas cotisé pendant ces années-là et du coup, elles vont devoir travailler plus longtemps, jusqu'à 66, 67 ans, pour pouvoir toucher une meilleure retraite. Donc, les inégalités salariales je crois que c'est quelque chose qui est très parlant pour tout le monde de dire que c'est quand même très injuste et qu'on peut faire un effort là-dessus pour que les femmes touchent le même salaire que les hommes pour un poste égal.
Et en parlant de salaire, est-ce que à l'Assemblée nationale, les hommes et les femmes ont-ils les mêmes salaires ?
Alors oui, étant donné que là, c'est un statut qui est régi par l'État, il n'y a pas d'inégalité. Tout le monde touche la même indemnité, c'est une indemnité, qu'on soit une femme ou un homme. Et même, il y a maintenant une loi qui dit qu'il faut que les partis présentent autant de femmes candidates que d'hommes candidats. Et si ces partis ne le font pas, ils touchent une amende. Et donc, nous, par exemple, moi, je fais partie d'un parti politique qui s'appelle La France Insoumise. Eh bien, on a réussi à avoir à peu près 50-51% de femmes candidates. Et c'est très bien.
Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Et maintenant, je laisse la parole à Alexandros.
Est-ce qu'au sein de l'Assemblée nationale, est-il plus facile d'être un homme qu'une femme ?
Je crois que ça s'améliore quand même. Il y a eu, pas si longtemps que ça, il y avait encore que des hommes hein, à l'Assemblée nationale. Il n'y avait que des hommes députés. Hein. Vous regardez les images ou les vidéos d'il y a même 50-60 ans en arrière. C'était très masculin. Donc maintenant, on voit quand même beaucoup de femmes qui prennent confiance, qui prennent la parole, qui sont élues déjà. Et du coup... qui ont autant de légitimité à exprimer leur avis sur la société. Et ça, c'est très bien. Maintenant, on parlait du fait que les partis doivent présenter 50% d'hommes, 50% de femmes, candidates et candidats. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, on est à 50-50 à l'Assemblée. Il y a encore plus d'hommes que de femmes. Bon, voilà un aspect qu'il va falloir encore travailler.
Avez-vous déjà subi du sexisme ? À l'Assemblée nationale.
Alors, je réfléchis. Je ne me souviens pas d'épisode que moi, j'ai vécu comme un épisode sexiste envers moi. Pour moi, non. Par contre, j'entends des remarques, que ce soit à l'Assemblée ou même en dehors, hein, des commentaires qui peuvent être faits, encore maintenant, sur la tenue des femmes, par exemple. Ça, oui, c'est quelque chose de sexiste. Alors, je pense que c'est moins qu'avant, heureusement, mais ça ne veut pas dire que c'est complètement absent. Et donc, quand je parlais tout à l'heure du fait qu'il faut... travailler sur l'éducation, voilà un exemple où parfois on a pris des habitudes, de mauvaises habitudes depuis des décennies et que y a encore de mauvaises habitudes qui se perdent et sur lesquelles on peut encore un peu s'améliorer.
Pouvez-vous nous donner 3 mesures pour enrayer le sexisme en politique ?
Alors, j'ai parlé d'éducation. Alors, c'est la question de l'éducation, de la sensibilisation au sexisme est de plus en plus prise en compte à l'école, par exemple. Et des questions qui sont travaillées, le fait même que vous fassiez une émission radio là-dessus montre qu'on parle de plus en plus de ces questions-là. Donc ça, c'est très bien, c'est un des aspects, une des mesures. Je pense qu'on peut, je l'ai dit tout à l'heure, encore travailler pour que les femmes prennent confiance, qu'elles postulent à encore plus de fonctions de décision pour le pays, ça peut être, donc on a parlé de députés, ça peut être au gouvernement. Et ça se travaille, c'est-à-dire que pour gagner confiance, il faut que les choses soient mises en place pour qu'on ait confiance et qu'on se lance, en fait. Et puis, on pourrait, je reviens sur cette idée-là, ça peut être aussi l'obligation de parité dans des instances comme les associations, tout ce qui est fonction représentative. Et puis moi, je reviens là-dessus, mais l'égalité des salaires, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, l'égalité des salaires.
Merci beaucoup pour vos réponses. Et enfin, nos dernières questions à toi, Rémi.
Quelle est, selon vous, la meilleure loi votée au sein de l'Assemblée nationale concernant le droit des femmes ?
Droit des femmes ? Eh bien, nous, à la France Insoumise, là, il n'y a pas très longtemps, hein, c'était là depuis le mandat de juin, donc c'était il y a 3-4 mois en arrière. Traditionnellement, lorsqu'on a un groupe d'opposition, on a une journée dans l'année qui s'appelle une journée de niche parlementaire. C'est nous qui décidons quelles sont les lois qu'on veut proposer et qu'on veut soumettre au vote de l'Assemblée. Donc c'est une journée très particulière, rituelle et qui nous tient à cœur. Et nous avons proposé d'inscrire dans la Constitution le droit à l'interruption volontaire de grossesse. C'est-à-dire lorsqu'une femme tombe enceinte, qu'elle pense qu'elle ne veut pas ou qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle a le droit d'avorter, d'interrompre sa grossesse. Et nous, on veut protéger ce droit en l'inscrivant dans la Constitution, de manière à ce qu'on ne puisse plus jamais revenir là-dessus. Parce qu'il y a des pays où on revient sur ces droits-là. En Hongrie, notamment, Il y a des mouvements aux États-Unis qui commencent à émerger. On pourrait croire que bah, ça y est, c'est des choses qui sont inscrites à vie. Bah, ce n'est pas vrai. Il y a des fois, ça revient, c'est remis en question par des gens qui sont réactionnaires. Et donc, nous, on a proposé de l'inscrire dans la Constitution pour qu'on ne puisse plus y toucher. Et donc, nous l'avons fait voter à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est très important pour progresser dans la liberté des femmes à disposer d'elles-mêmes et de leur corps. Et j'en suis fière et c'était vraiment un moment très émouvant. Très émouvant.
Selon vous, quelle est la loi ou la mesure prise par le gouvernement d'Emmanuel Macron qui vous semble la moins juste ?
Bah, vu l'actualité, j'ai envie de dire sa décision de faire travailler les gens jusqu'à 64 ans coûte que coûte. Alors, il n'a pas encore fait voter ça. Hein, et heureusement, ce sera peut-être jamais le cas, vu les protestations qu'il y a dans le pays. Je crois qu'on travaille déjà suffisamment dans ce pays pour qu'on n'ait pas besoin de travailler encore plus longtemps. Mais je pourrais en citer plein. Vous savez, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont injustes et qui sont décidées par Emmanuel Macron et son gouvernement. Une des premières choses qu'il a faites quand il est arrivé président de la République en 2017, c'est de supprimer l'impôt sur la fortune. C'est-à-dire le fait que les plus riches du pays contribuent à l'effort national, à financer des services publics, etc. Une autre des premières choses qui a été mise en place et qui permet de bien faire le parallèle, c'est qu'il a supprimé les APL, c'est-à-dire des aides qui sont allouées souvent aux jeunes, aux précaires, aux fragiles. Il les a diminués de 5 euros. Alors, l'argument qui a été donné, ça a été de dire « Oui, mais 5 euros, c'est rien. » Ça dépend pour qui, en fait. Pour un étudiant, 5 euros, parfois, c'est un repas dans la journée. Donc, ça veut dire un repas en moins dans la journée. Donc, d'un côté, il supprime l'impôt sur la fortune pour les plus riches et de l'autre, il pénalise les plus pauvres du pays. Je trouve ça extrêmement injuste et ça, je le dénonce régulièrement.
Bien, merci. Dernière question. Si vous pouviez changer une loi, n'importe laquelle, ça serait laquelle ?
Je pense qu'il faut qu'on réorganise le travail dans le pays. Les gens ont du mal à trouver du sens à leur travail. Des fois, ils vivent ça comme quelque chose de très pénible. Par exemple, mettre en place la retraite à 60 ans, ce serait quelque chose de pas mal. Pouvoir permettre aux gens de faire autre chose que travailler moins longtemps dans la semaine. On pourrait penser à passer aux 32 heures, à avoir une sixième semaine de congés payés. Les grands moments de la politique de France, c'est ceux où on a accordé plus de droits, plus de liberté, plus de souplesse aux gens et plus de progrès humain et social. Par exemple, quand on a eu la cinquième semaine de congés payés, les gens étaient heureux d'obtenir ça. Quand on est passé à la semaine à 35 heures, c'était un grand progrès aussi. Eh bien, on pourrait marquer encore une étape là-dedans. Et je crois que non, ce n'est pas impossible et qu'en plus, c'est souhaitable.
Et un grand merci pour vos réponses.
Merci à vous pour l'invitation.
Et bonne journée.